Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le pape se rendra dans le sud de l'Italie, à Caserte, à deux reprises, le 26 et 28 juillet prochain. Messe avec les fidèles pour le premier déplacement, rencontre avec un ami évangélique pour le second. En Irak, l'ONU craint l'homogénéisation des territoires. Ne seront-ils bientôt que chiites, que sunnites ou kurdes? Que deviendront les chrétiens? À Mossoul, leurs maisons ont été marquées d'un signe pour les convertir ou les faire déguerpir. Trois obus sont tombés mercredi à proximité de l'église de la Sainte Famille à Gaza. Quelques heures de trêve humanitaire dans l'enclave palestinienne ce jeudi. Témoignage de MSF dans un instant. Au Royaume-Uni, les leaders religieux sont au diapason. Ils condamnent d'une même voix le projet de loi en cours d'examen sur le suicide assisté. Et puis enfin, retour sur cette affaire qui fit grand bruit en France, celle opposant la banque Crédit Lyonnais et la marque Laudate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. On savait que le pape François avait l'intention de se rendre à Caserte, dans le sud de l'Italie, ces jours prochains pour rencontrer le pasteur évangélique Giovanni Traetino, connu à Buenos Aires à l'époque où il était archevêque. Mais il semblait difficile de ne pas, à cette occasion, rencontrer la population locale. Le père Federico Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a annoncé ce jeudi que le pape se rendrait donc aussi à Caserte une première fois, le samedi 26 juillet dans l'après-midi. Il y célébrera la messe à 18h pour la population, en la solennité de leur sainte patronne, Sainte Anne. Il reviendra donc ensuite à Caserte le lundi suivant, le 28 juillet, pour rencontrer son ami de manière totalement privée. Des quartiers entièrement chiites, des villes sunnites, certains songent même à une partition de l'Irak entre sunnites, chiites et kurdes. Le commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'inquiète de l'homogénéisation des territoires qui menace la diversité de la société irakienne. Ce phénomène existe depuis plusieurs années en Irak, mais il s'est accentué avec les offensives menées par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Des pans entiers de population ont fui leur ville ou leur village d'origine pour se regrouper par communauté. Une tendance qui place les minorités chrétiennes, turkmènes, azidis et chabaks en grande difficulté, Jean-Baptiste Cocagne.
Le pays risque de perdre toute sa composante chrétienne, s'inquiète le nonce apostolique en Irak et en Jordanie. Dans une interview accordée à l'agence SIR de l'épiscopat italien, Mgr Giorgio Lingua évoque une situation particulièrement critique dans les villages du nord du pays, des villages qui sont souvent habités par des chrétiens et qui ont accueilli des personnes ayant fui Mossoul. Les problèmes principaux, explique le diplomate, concernent l'eau et l'électricité. Et face à des conditions de vie toujours plus précaires, ces populations quittent l'Irak afin de trouver ailleurs une situation meilleure. Dans le pays, le HCR parle de 2 millions de déplacés, 500 000 dans la province d'Al-Anbar et 600 000 dans le sud depuis la prise de Mossoul le mois dernier. Sur place, les djihadistes auraient donné l'ordre aux fonctionnaires publics de suspendre toute aide en nourriture et en gaz aux chiites, aux kurdes et aux rares chrétiens demeurés dans la ville. Selon un fonctionnaire local, les représentants du califat islamique ont annoncé que toute infraction sera punie sur la base des règles prescrites par la charia. À Bagdad, l'archevêque auxiliaire de la capitale pour les Chaldéens révèle que les musulmans laissent des inscriptions sur les maisons habitées par des chrétiens à Mossoul, les forçant ainsi au départ. Il trace un N, l'initiale du mot Nazarat, qui veut dire chrétien en arabe, pour identifier les maisons des chrétiens de Mossoul, explique-t-il, ajoutant que les djihadistes de l'État islamique leur demandent de s'en aller, de se convertir ou de payer la jizya, la taxe pour les non-musulmans. Une fois partis, les sunnites partisans du califat occuperaient leurs maisons. Peu de chances que les personnes ayant fui les habitent de nouveau.
Les Gazaouites se sont précipités, ils sont sortis de leur abri, de leur maison pour se ravitailler en vivres ou en argent. Après 10 jours de bombardements intenses qui ont fait 227 morts, une trêve humanitaire de 5 heures a été annoncée par Israël ce jeudi. Les secours en ont profité pour organiser plus efficacement leur aide aux blessés. Pendant cette accalmie, nous avons joint Audrey Landman, infirmière, coordinatrice médicale de Médecins sans frontières dans la bande de Gaza.
Ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser cette trêve de 5 heures pour pouvoir accéder à nos patients. Médecins sans frontières a une activité de soins post-opératoires pour des pansements et de la kinésithérapie pour des patients qui sortent de l'hôpital. Ils sont disséminés un petit peu dans toute la bande de Gaza, donc ça faisait 9 jours qu'on n'avait pas vraiment accès à eux, sauf pour les gens qui habitaient très proche de notre clinique. Aujourd'hui, on a lancé des équipes médicales dans le nord, dans le sud, dans le milieu de la bande de Gaza, avec un infirmier, un kinésithérapeute et des kits de pansement pour pouvoir accéder au maximum à nos patients et utiliser au maximum les 5 heures de cessez-le-feu.
C'est un peu une course contre la montre pour vous. Combien de patients à peu près vous prenez en charge ?
Alors c'est une course contre la montre bien évidemment parce qu'on a en suivi 160 patients dans notre programme post-opératoire. On en a plus de 60 qui sont en soins pour des pansements. Pour eux, bien évidemment, c'est la priorité pour nous de pouvoir les voir puisque la majorité sont des cas qui ont eu des brûlures. Donc si les pansements ne sont pas faits régulièrement, il y a de gros risques d'infection pour les brûlés. Donc on essaye au maximum de pouvoir visiter au moins tous les patients qui ont des pansements ou de pouvoir leur déposer des kits de pansements.
Psychologiquement, dans quel état d'esprit sont les gens ?
Aujourd'hui, c'est un peu l'effervescence avec les 5 heures de cessez-le-feu. Je pense que c'est l'occasion pour la population de bouger, les banques sont ouvertes, il y a certains magasins qui ont ouvert, donc tout le monde essaye un petit peu de pouvoir faire ce que les gens n'ont pas pu faire dans les derniers jours parce que c'était pas possible de bouger. Je pense que de manière générale, la population est vraiment sous pression, très stressée. Les gens sont quand même fatigués, très inquiets pour leurs enfants. Je vais vous donner l'exemple des gens avec qui on travaille, des Palestiniens avec qui on travaille, qui sont très très stressés pour leurs enfants puisque les bombardements ont forcément un effet assez traumatisant sur les enfants. Tout le monde est inquiet par rapport à la suite de la situation, nos employés les premiers. Les morts de civils ou les blessés civils ont forcément un impact psychologique sur la population. Hein. L'insécurité, le fait de voir que des civils sont touchés fait très peur à la population ici.
Cette trêve, même si elle dure quelques heures, est-ce que cela vous conduit à avoir l'espoir d'une trêve évidemment et d'un cessez-le-feu dans les heures, dans les jours qui viennent ?
Bien évidemment, on espère pour la population locale que les choses vont se calmer. Moi, je peux pas trop vous dire dans quelle direction ça va. C'est un petit peu le gros point d'interrogation, malheureusement, en ce moment. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est de continuer de négocier la protection des structures de santé, la protection des staffs médicaux, que ce soit le staff MSF ou les structures MSF, mais aussi les structures de santé publique et le staff médical du ministère de la Santé. Il faut que les employés des hôpitaux et le staff médical puissent continuer d'avoir accès aux patients, les ramener à l'hôpital, et il faut que les hôpitaux continuent d'être des structures protégées pour prendre en charge les patients.
Il n'y a pas assez de protection des structures médicales à Gaza, c'est ce que vous nous dites ?
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas assez de protection, mais on n'a aucune certitude aujourd'hui sur ce qui va se passer dans les prochains temps. Et je pense que le message de Médecins Sans Frontières est toujours le même. C'est les structures de santé et le personnel médical doivent être protégés, doivent être capables d'avoir une certaine sécurité pour pouvoir travailler et s'occuper des gens.
C'était Audrey Landman de Médecins Sans Frontières. Elle était interrogée par Olivier Bonnel. Soulignons que la semaine dernière, le ministère de la Santé à Gaza a déclaré l'état d'urgence face au risque d'une grave pénurie de médicaments de base. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 30% de la liste des médicaments fondamentaux et 50% des fournitures médicales jetables étaient déjà en rupture de stock à Gaza avant la crise. Par ailleurs, mercredi, toujours concernant l'enclave palestinienne, l'agence de presse Fides a pu recueillir le témoignage des religieuses de l'Institut du Verbe Incarné, toute étrangère, qui œuvre dans la paroisse catholique de la Sainte Famille à Gaza. Quels échos ? La réponse avec Bernard de Cotigny.
Une bombe a explosé juste à côté de la paroisse mercredi. Sœur Lodis est brésilienne. Elle raconte les coups de fil de l'armée israélienne pour prévenir les civils que leur maison serait bombardée. Elle explique que leur paroisse est considérée comme un lieu sûr, qu'elle accueille ainsi depuis quelques jours les sœurs de Mère Teresa ainsi que les 28 enfants handicapés et les 9 femmes âgées dont elle s'occupe. Avec le père Jorge Hernandez, ce groupe prie pour implorer pour tous le pardon, la justice et la paix.
Dans le cadre de brefs messages diffusés par l'Institut du Verbe Incarné, le père Hernandez et sœur Gladys décrivent, eux, les conditions de vie de la petite communauté catholique et de l'ensemble de la population de Gaza. Ce qui est sûr, écrit le curé, c'est que les crimes se multiplient, les jeunes enfants commencent à tomber malades à cause de la peur, du stress, des ondes de choc et du bruit continuel. Les parents, explique-t-il, font de véritables prodiges pour distraire leurs enfants afin que tant de violence ne les emporte pas. Ils les font ainsi jouer et sauter à chaque fois qu'ils entendent une explosion. Ils les font danser ou simplement ils les embrassent en leur couvrant les oreilles.
Les évêques d'Afrique centrale veulent restructurer la pastorale de la famille, mieux préparer les fidèles au mariage, harmoniser les trois formes de célébration du mariage, coutumier, civil et catholique, accompagner, éduquer les couples à l'amour. C'est ce qui ressort de la déclaration finale de la 10e assemblée de l'ACERAC, l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. Une rencontre sur la famille qui s'est tenue à Brazzaville, la capitale congolaise, qui devrait être aussi la ville hôte d'un autre forum du 21 au 23 juillet prochain. Placé sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso, médiateur international dans la crise qui déchire la RCA depuis l'année dernière, ce forum a été initié dans le but de trouver une solution au conflit centrafricain. Un sommet qui ne fait toutefois pas l'unanimité. À quelques jours de son ouverture, des responsables politiques et religieux, dont le pasteur Nicolas Guérékoyamé Gbangou, ont déclaré qu'il était inopportun, pas une véritable solution à la crise. Le groupe de travail de la société civile centrafricaine, qui partage la même position, a déjà annoncé qu'il boycotterait ce rendez-vous. Un rendez-vous auquel pourtant tient Mgr Dieudonné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui en République centrafricaine, croit en l'utilité de ce forum. Il a ainsi appelé les forces vives du pays à y participer.
Je reviens de Brazzaville. J'ai rencontré des réfugiés qui me l'ont dit. Nous voulons parler pendant une semaine pour dire à tous les belligérants s'ils peuvent arrêter les armes, nous voulons rentrer en République centrafricaine pour reprendre notre vie quotidienne. Ce genre de témoignage vous touche et vous ne pouvez que demander à ce qu'on ne puisse pas traîner la situation, mais bien au contraire, se retrouver et trouver une solution rapidement pour libérer nos frères qui sont aussi quelque part en prison, en exil. Et ils veulent retrouver leur liberté en étant chez eux, vaquer à leurs occupations et reprendre le chemin de l'école, reprendre le chemin des activités, et tout cela, ces désirs, ces revendications-là que des hommes et des femmes expriment. Et je pense qu'il est temps pour nous aussi de nous lever, de faire de bonnes propositions, aider notre peuple. L'intérêt national doit primer sur l'intérêt égoïste. Et je le redis, c'est l'intérêt national qui doit nous guider pour sauver notre peuple.
Et qu'attendez-vous donc concrètement de ce forum ?
Que les gens qui pourront venir soient des gens honnêtes, sincères, intègres, et qui vont poser des actes qui ont des répercussions sur le terrain. Et nous espérons que ce sont des gens qui sont des véritables leaders et qui ont un message à communiquer. Nous attendons de ce forum que les Centrafricains puissent se voir en face, se dire des choses et aussi poser des jalons d'un lendemain meilleur, où on pourra dire en Centrafrique, il fait beau vivre. Nous attendons aussi de ce forum que des décisions soient prises et que la communauté internationale s'engage résolument à ce que le cessez-le-feu devienne réalité. Ça veut dire qu'il n'y ait pas mille et une interprétations de résolutions prises par l'ONU. Et nous attendons aussi que les engagements pris, les promesses faites, qu'on puisse les réaliser pour aider la population au niveau humanitaire, au niveau sécuritaire, éducatif et politique.
Et pour terminer, avez-vous quelque chose à ajouter ?
Je pense ici à tous ces malades qui n'ont plus de médicaments, à tous ces gens qui errent dans la brousse, à tous ces enfants qui ne vont plus à l'école. Tout cela, rien que pour eux, nous devons faire des concessions, engager de vraies négociations, non seulement pour nous libérer, mais libérer nos frères aussi, et leur donner la possibilité de goûter à la paix et être heureux en terre centrafricaine.
Nous voulons confier le Cameroun ainsi que tous les autres pays en guerre au Seigneur. Samedi prochain, au Cameroun, les catholiques de Douala marcheront en procession dans les rues de la capitale économique du pays. Ils participeront à des messes, à des prières pour la paix, organisées par les prêtres dans toutes les paroisses de la métropole sur l'impulsion de Mgr Samuel Kléda, l'archevêque métropolitain de Douala. L'insécurité qui sévit actuellement aux frontières du pays et particulièrement aux frontières avec le Nigeria laisse planer une certaine psychologie psychose au sein des populations. Dans des situations pareilles, il vaut mieux davantage s'en remettre aux mains du Tout-Puissant, expliquait le clergé. Le Cameroun est en effet un pays frontalier du Nigeria où la secte islamiste armée de Boko Haram procède à de nombreux attentats et enlèvements visant les forces de l'ordre, mais aussi ceux qu'elle juge être de mauvais musulmans et bien sûr les chrétiens. Primat de l'Église catholique, archevêque de Canterbury, secrétaire général du Conseil musulman ou encore grand rabbin du pays, en tout 23 leaders religieux de Grande-Bretagne s'opposent d'une même voix au projet de loi sur le suicide assisté, un projet de loi qui sera en cours d'examen ce vendredi à la Chambre des Lords, une loi qui permettrait aux personnes de participer activement à mettre fin à la vie d'autres personnes, renforçant l'idée qu'elles n'ont plus aucune valeur. Ce n'est pas du tout la voie à suivre pour une société qui voudrait faire preuve de compassion et de bienveillance, écrivent les leaders religieux dans un communiqué. Cette loi permettrait aux médecins d'administrer une dose létale de médicaments aux malades en phase terminale avec une espérance de vie de moins de 6 mois et ayant encore leur faculté de compréhension et de décision. Actuellement, le suicide assisté est interdit par la loi en Grande-Bretagne, mais aucune poursuite judiciaire n'est prévue contre les parents qui aident des malades en phase terminale à mourir dans la clinique Dignitas en Suisse. Une banque peut-elle s'afficher auprès d'une entreprise à caractère religieux? C'est la question que pose le conflit entre la maison Laudate, spécialiste dans la vente de bijoux religieux, et LCL. La banque voulait en effet retirer son logo du site à cause de la neutralité religieuse. Après la menace de beaucoup de chrétiens de fermer leur compte, le Crédit Lyonnais est revenu sur cette décision qui relève de la discrimination religieuse. Le récit de Christelle Pierre.
Tout commence fin juin. Vianney d'Alençon, le directeur de la maison Laudate, a rendez-vous avec son banquier. Depuis la fondation de l'entreprise il y a 4 ans, c'est LCL qui héberge ses comptes et qui assure la sécurité des paiements en ligne sur le site.
Il m'a fait part en fin de réunion d'une obligation émanant de la direction qui m'interdit toute utilisation du logo LCL au sein de la société Laudate, mais aussi me retirait ce que j'avais déjà, qui était le logo LCL sur la plateforme de paiement en ligne. C'est quelque chose de très important quand vous entrez dans l'espace sécurisé. C'est un espace sécurisé qui est donné par la banque. Il sécurise et rassure le client lors de l'achat. Et le logo de la banque, évidemment, institutionnalise cette page. La raison était très simple. Suite à une charte de déontologie en interne, LCL interdit le fait qu'on puisse nouer un partenariat avec une entreprise religieuse, en l'occurrence chrétienne, puisque c'est ce qui m'a été dit.
Le directeur de la maison Laudate demande alors des explications à la direction de LCL. Il veut savoir ce que dit cette charte déontologique à propos de la neutralité religieuse de la banque. En attendant une réponse, il commence à fermer ses comptes. Cette histoire se répand rapidement sur les réseaux sociaux et sur les blogs et d'autres chrétiens décident de suivre l'exemple de Vianney d'Alençon et de boycotter le Crédit Lyonnais.
On a eu énormément d'appels et d'envois d'emails, même de gens qui sont passés en boutique pour soutenir l'entreprise. Ces mails disaient que compte fermé à tel endroit, compte fermé à tel endroit, compte fermé à tel endroit. Enfin, une espèce de réaction, si vous voulez, très forte. Et puis, au sein du Crédit Lyonnais, des demandes de congrégations religieuses et de diocèses qui ont demandé des comptes et menacé de fermer des comptes s'il n'y avait pas d'explication valable.
Au bout d'une dizaine de jours, LCL fait marche arrière. Le logo ne sera finalement jamais enlevé de l'interface de paiement en ligne. Au Crédit Lyonnais, on parle de maladresse, de mésentente. Ce qui a sauvé la maison Laudate, c'est en fait leur collection d'alliances et de bijoux fantaisie. Car selon les explications de la banque, leur principe de neutralité religieuse ne s'applique qu'aux sites commerciaux exclusivement destinés à une seule confession. Dans ces cas-là, la banque demande dès la signature du contrat de ne pas afficher son logo. Mais cet argument ne tient pas devant la loi française. Maître Christophe Courage est avocat au barreau de Paris. Il est spécialisé dans le droit public.
La banque a tout à fait le droit de refuser de vendre, sauf naturellement si le refus de vente a un caractère discriminatoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un caractère discriminatoire? Ça peut être le fait de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, parce que l'entreprise opère une distinction en fonction notamment de son appartenance à une religion déterminée. Donc si on a une banque qui dit « moi je refuse de vous donner mon logo pour une interface de paiement parce que vous êtes une entreprise qui vend des produits religieux. Oui, là, à mon sens, il y aurait ici une discrimination, clairement.
À la banque LCL, on indique qu'aucune réflexion n'a été engagée sur la charte déontologique. Elle n'est donc toujours pas remise en cause.
Un sujet préparé par Christelle Pire. Et puis quittons-nous enfin avec ce tweet du pape François, adressé à ses 14 millions de followers sur le réseau en ligne. Le pape leur écrit que l'Église est par sa nature missionnaire. Elle existe pour que chaque homme et chaque femme puissent rencontrer Jésus-Christ. Un message sur lequel se clôt ce magazine. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle émission.